Le clivage, c'est bon, tout le monde
tweet,
filme tout.
En direct, les films, les courts-métrages,
du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Trois, une presse indépendante.
Formation numérique.
Exciting.
Le nez sur l'écran internet.
Secret des affaires, secret défense, harcèlement judiciaire, intimidation physique, pression sur les sources et discrédit organisé des journalistes. 16 cartes de presse s'allient pour dénoncer haut et fort les nouvelles censures qui vous empêchent de savoir. Quoique, je constate que ce livre n'est pas un cimetière de scandales enterrés, mais bien l'énergique recension d'affaires qui voient le jour. Bonjour Fabrice Arfi.
Bonjour.
Mediapart, vous co-dirigez Informer n'est pas un délit, c'est donc cet ouvrage qui sort aujourd'hui chez Calman Lévy. Pour en parler, on va commencer avec l'info tout près de chez vous. Le journal local que vous trouvez au comptoir ou à la boulangerie peut-il tout vous dire?
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
L'actu média du jour, d'abord, le Sénat préconise de regrouper à l'horizon 2020, ça va arriver très vite, Radio France, France Télévisions, France Média Monde, CRFI et France 24, et l'INA qui conserve nos archives. Une sorte de BBC à la française, Arte et TV5 Monde resteraient des entités autonomes. Un conseil d'administration libéré de la tutelle de l'État nommerait le dirigeant de ce mastodonte.
Beautiful pass by Carmelo Anthony, but Jason Kidd saw it coming as he wanted Durant. What a pass by Kidd. Better three for three.
Le Washington Post a fait trembler le monde des journaux en offrant 100% de ses articles à Facebook. Oui, la clé d'entrée pour accéder à une info à l'avenir, ce sera le réseau social. Tremblez maintenant, chaîne de télévision. Pour la première fois, Facebook diffuse en direct un match de basket, et pas des moindres, sur le terrain la star de la NBA, LeBron James. Voilà, les journalistes peuvent-ils tout vous dire? C'est notre dossier du jour, nous allons l'évoquer, montrant que la machine à censurer implique jusqu'aux plus hautes strates de l'État. Mais je vais d'abord aborder le sujet par ces infos locales qui touchent aux finances et aux dettes de votre commune, aux pratiques de votre maire, de votre député, de votre président de région, au cumul des mandats, parce que parfois, tous ces gens-là, c'est la même personne. Tout ce que vous voulez savoir sur vos élus et que la presse locale ne vous raconte pas. Je vous conseille d'en informer n'est pas un délit, cet ouvrage dont on parle aujourd'hui. Le chapitre consacré par Jacques-Olivier Tessier au Midi Libre, à la Gazette de Montpellier, à la Gazette de Nîmes, à la Gazette de Sète, tellement dépendante des élus locaux, pardonnez-moi, qui achètent de la pub, qui achètent des annonces légales, qui signent des partenariats et puis qui coupent les vivres quand un article leur déplaît. On part en région, à Nice cette fois.
Christian Estrosi est maire de Nice, 350 000 habitants. Président de l'agglomération, en tout 650 000 habitants, et aussi
Monsieur le Président,
député des Alpes-Maritimes. Trois mandats donc, plus président du conseil de surveillance de l'hôpital, du syndicat des transports, de l'office du tourisme, des stations du Mercantour, vice-président de l'UMP. En tout, une dizaine de responsabilités.
Très sincèrement, je ne fais défaut ni à l'une ni à l'autre. Je suis maire à 300% et député à 100%.
À Nice, nous retrouvons Hélène Constanti, l'une des co-auteurs du livre. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors, vos papiers dans l'Express, à l'époque, sur le cumul des mandats, n'ont pas plu du tout à Estrosi. On va en reparler. Ça a fait de vous une journaliste dite non grata. Un mot d'abord. À Nice, d'où vous êtes aujourd'hui, c'est un désert médiatique en dehors de 10 matin. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative à l'information locale?
Alors, en dehors de Nice matin, il n'y a pas d'autres quotidiens régionaux importants, comme il peut exister dans d'autres régions. Il y a eu, pendant un moment, Métro et 20 minutes. Métro n'existe plus que sous sa forme Internet. 20 minutes survit difficilement avec deux pages locales et 20 000 exemplaires. Et il y a Direct Matin, qui est détenu par Vincent Bolloré, qui marche assez bien et qui a là clairement pris parti pour le pouvoir en place.
Quant à Nice matin, c'est un journal extrêmement dépendant des collectivités locales, donc de Christian Estrosi qui a la main mise sur tout le pouvoir régional.
Et oui, il en est dépendant à la fois politiquement, puisqu'il alterne menaces et cajoleries avec les journalistes de Nice Matin. Son directeur de cabinet appelle dès qu'un article lui déplaît. Mais ce qu'on sait moins, ce que vous disiez là tout à l'heure à propos du Midi Libre, c'est le poids de la publicité institutionnelle. Je raconte là dans le chapitre que j'ai écrit sur Nice. J'ai pris au hasard un exemplaire de Nice Matin du mois de juin et les trois seules pages pleines de publicité publicités, c'était des publicités de la ville, dont deux pages étaient, donc deux pleines pages de publicité, et prises en sandwich entre ces deux pages, il y avait un article qui était signé de journalistes de la rédaction, mais qui ressemblait fort à un publi-reportage pour le maire, et pour la promenade des Anglais, où il y avait une, des expositions artistiques cet été, et notamment un article qui m'a stupéfié, qui était titré « L'amour d'un maire ». Alors ça, c'est des articles comme ça que Christian Estrosi adore.
C'est quelque chose de tout à fait communément admis autour de vous. Quand vous vous rendez au Club de la Presse de la Méditerranée, vous rencontrez des confrères qui vous disent « Mais alors vraiment, vous n'avez absolument aucune chance, vous enquêtez sur la Riviera, votre livre ne verra jamais le jour, et puis de toute façon, s'il voit le jour, on n'en parlera pas ». C'est exactement ce qui s'est passé, hein.
C'est exactement ce qu'on m'avait dit lorsque je suis arrivée ici au printemps 2013 pour écrire un livre qui a été publié chez Fayard qui s'appelle Razia sur la Riviera. Il m'avait mis en garde comme ça, d'un ton un petit peu amusé. Je me disais non, c'est pas possible. Moi, je venais de Paris. Bon, je connaissais le contrôle des politiques sur les médias locaux, mais franchement, j'étais loin d'imaginer qu'il était à ce point important. Alors, j'ai eu droit à tout. Hein. J'ai eu droit, bien sûr, avec Christian Estrosi. Non, je répondrai pas à vos questions, etc. On me ferme brutalement la porte. Bon, plus aucun communiqué, je suis sur la liste noire. J'ai eu les tapes au-dessus, c'est-à-dire les pressions directement auprès de Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de L'Express. Lorsque Christian Estrosi croise mon directeur de la rédaction sur un plateau télévision, Christian Estrosi dit à mon rédacteur en chef « Écoutez, il y en a une qui vient d'arriver à Nice, là, mais ça va pas du tout. Elle est venue dans mon bureau et elle a menacé de me pourrir ma campagne électorale. » Alors, imaginez que je puisse dire au maire de Nice, je viens à Nice, je vais vous pourrir votre campagne.
Mais ça va au-delà de ça, Hélène, c'est-à-dire qu'on a refusé des salles municipales aux associations qui vous invitent à débattre, on a fait le tour des librairies pour dissuader de vendre votre livre, hein, la presse locale n'en a pas parlé. Vous le dites noir sur blanc que ça a été un vrai choc pour une journaliste qui avait toujours travaillé pour des médias nationaux.
Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Un livre d'enquête sur la Côte d'Azur, il y en a pas tous les matins. Je pensais que voilà, dès le jour même, j'aurai un article dans Nice Matin, je serai interviewée sur le plateau de France 3. Et alors, il y a eu un grand blanc, comme un grand édredon qui a recouvert le livre, jusqu'à ce que mon éditeur Fayard, j'étais présente au salon du livre, et mon éditeur décide de publier une demi-page de publicité dans Nice Matin, sous le titre « Le livre qui dérange ».
Voilà. Donc, on voit très bien comment l'absence de contre-pouvoir, hein, confère un sentiment d'impunité totale aux élus locaux.
Oui, total. Et c'est vrai que j'ai été quand même assez attristée par cette espèce de fatalisme, hein, dont parlaient mes confrères. Je me suis sentie assez seule, je dois le dire. Mais en même temps, c'est un boulevard, hein. Je travaille également pour Mediapart. C'est un boulevard pour les journalistes d'investigation, cette région.
Ah, je vous remercie beaucoup, Hélène, parce qu'on va en parler de ces infos qui sortent quand même et de se demander par quel biais, par quel vecteur et par quel moyen elles sortent. Merci beaucoup, Hélène Constanti. Et merci à nos confrères de France Bleu Azur que je salue et que je remercie de vous avoir convié. Fabrice Arfi, alors on vous connaît évidemment comme enquêteur à Mediapart. Ce qu'on sait, moi, c'est que vous avez démarré à Lyon. Donc, cette problématique du pouvoir des élus locaux qui cadenasse, qui verrouille la presse locale, vous l'avez affrontée. Alors,
avez pris le mur à Lyon, comme beaucoup
la tête la première,
comme beaucoup de journaux en termes de presse quotidienne régionale n'a qu'un quotidien qui a un monopole absolu. C'est le Progrès de Lyon, dont les liens, comme Hélène l'a raconté, comme Jacques-Olivier Tessier le raconte à Montpellier dans le livre, ont des liens d'intérêt, ne serait-ce que par la publicité, comme on l'a dit, par les annonces légales, par cette espèce de légitimisme permanent vis-à-vis du baron local, qui nous renvoie à un paysage médiatique local qui est terrifiant.
On parle beaucoup de ces milliardaires qui rachètent les grands quotidiens nationaux, les chaînes de télévision, etc. On parle moins de la situation de concentration historique de la PQR, la presse quotidienne régionale. Il y a 8 groupes en ce moment qui se partagent les journaux sur tout le territoire français, le plus puissant d'entre eux étant le Crédit Mutuel, qui possède carrément tous les titres de l'Est de la France, c'est-à-dire de Nancy à Grenoble.
Voilà, de l'Est républicain jusqu'au Dauphiné libéré. Alors, pour la petite anecdote...
Elle n'est pas petite.
La conséquence de ce phénomène de concentration qui est mortifère pour la liberté d'informer, vous savez que M. Bolloré à Canal+, a censuré un documentaire sur le Crédit Mutuel et sur les soupçons, y compris judiciaires, qui pèsent sur lui d'avoir organisé, un peu comme UBS et HSBC, un grand système d'évasion et de fraude fiscale pour ses ses clients. Le Crédit Mutuel détient donc tous les journaux dont vous avez parlé, pas une ligne. Pas une ligne, il n'y a eu dans ces journaux concernant les soupçons qui vit cette banque, qui est juste quand même une énorme banque mutualiste française, et encore moins la censure du documentaire sur Canal+, qui sera finalement diffusé grâce au service public sur France 3 le 7 octobre. Voilà. Ouais, donc voilà qu'elle est par un seul fait, la conséquence de la concentration sur ce qu'on vole aux citoyens. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une information qui ne sorte pas, c'est un droit de savoir des citoyens qui est bafoué. C'est pas un privilège de journaliste. Mm-hmm. C'est pas un geste corporatiste pour dire laissez-nous écrire ce qu'on veut et si possible n'importe quoi. C'est un vol. C'est une forme de braquage. C'est un braquage culturel. C'est un braquage sans violence, mais c'est un braquage.
C'est-à-dire qu'on enlève... Et je suis contente qu'on ait commencé l'émission comme ça parce que ça prouve que c'est à tous les niveaux de la République française et que ça a autant de valeur une information confisquée, une information volée quand elle est dans une commune de 500 habitants, ça a autant de valeur qu'un scandale d'évasion fiscale au niveau européen.
Mais le local n'est qu'un terrain de jeu un peu plus réduit qui pose des questions universelles. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre le local qui serait moins noble que le national.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Voilà, Fabrice Arfi de Mediapart est mon invité ce matin sur France Inter, co-auteur de ce livre, Informer n'est pas un délit. Vous êtes nombreux, comme vous me l'avez écrit, c'est un livre à 32 mains, c'est assez joli. Alors, parcourons ces nouvelles censures que vous dénoncez haut et fort, elles sont de nature très différentes. Elles sont également à des niveaux très différents. Vous plongez dans les affaires Bettencourt et Kadhafi couverts pour Mediapart et vous montrez que c'est un cas d'école du contournement du droit de la presse. Vous montrez qu'il y a une criminalisation du métier de journaliste. On ne vous attaque plus en justice pour des questions de droit de la presse. On trouve d'autres délits. Mon confrère Benoît Colomba de France Inter parle du harcèlement judiciaire dont il a été victime par Vincent Bolloré. Davet et l'Homme, les journalistes du Monde, décrivent ces nouvelles officines assez terrifiantes qui agissent dans l'ombre et qui se servent d'autres confrères, d'autres cartes de presse, de journalistes en poste pour discréditer les journalistes qui les gênent. On parlera aussi des manipulations et des menaces qui pèsent sur ceux qui enquêtent sur le Front National et puis de ces, comment dire, de ces murs de communicants, de ces secrets d'affaires qui protègent les multinationales exactement comme le secret défense protège les activités de l'État. Et pourtant, Fabrice Arfi, je vous fais une remarque de bon sens populaire. Ce livre n'est pas un cimetière. Au contraire, c'est la recension assez énergique, je le disais dans mon introduction, d'affaires qui ont vu le jour.
Qui ont vu, bien sûr, c'est évidemment une bonne question. Ce sont des affaires qui ont vu très péniblement le jour. Mm-hmm. Nous racontons la coulisse d'enquêtes célèbres, mais est-ce qu'on raconte tout ? Est-ce que tout est sorti ? C'est bien sûr que non. Est-ce que nous essayons collectivement, un peu de manière chorale, de poser comme débat, c'est de démontrer qu'en France, nous avons un écosystème général de production du journalisme qui est à des années-lumière des canons démocratiques que l'on doit attendre en la matière. Quand je dis ça parce que c'est consacré par les Nations Unies, c'est consacré par notre Constitution, c'est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que la presse doit choquer l'État et certaines fractions de la population. Arrêt célèbre de la CEDH, qui s'appelle Handicide et qui date de 76. Aujourd'hui, en France, nous avons un écosystème, je le dis, pourri. Que ce soit en termes de concentration des médias historiques, vous l'avez dit, 7 milliardaires qui contrôlent 95% de la production journalistique dans ce pays. Que ce soit d'un point de vue législatif, un secret des sources qui n'est pas protégé en France. Et nous n'avons toujours pas de réforme législative. Un droit de la presse qui est régulièrement contourné pour criminaliser le journalisme et trouver nos sources. Et trouver nos sources, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de journalisme. Donc ça veut dire que les citoyens ne savent plus et ils sont condamnés aux agendas officiels, à la communication.
En c'est même aussi. Temps, quand on criminalise Fabrice Arfi, ça fait ce qui vous est arrivé dans l'affaire Bettencourt. Ça fait un acte de censure, comme vous le dites, inédit depuis le Second Empire. C'est-à-dire qu'on vous a fait retirer de Mediapart.
Donc c'est un cimetière.
Bah oui et non, je vais vous dire pourquoi, parce que vous le dites vous-même, je m'appuie sur votre article. Ouais. On vous a fait retirer du site de Mediapart, non seulement les enregistrements pointés du doigt dont vous vous êtes servi, mais en plus toute leur retranscription. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vous qui le dites. Ça a été repris dans bien d'autres canards, ça a été repris par tous les internautes. Mais paradoxalement, ces enregistrements, ils n'ont jamais autant circulé.
Oui, mais moi, je peux pas me satisfaire qu'il faille, pour se battre, trouver une morale à la censure. Voilà. Bien sûr qu'il y a eu ce qu'on appelle l'effet Streisand. On a censuré les pièces à conviction qui ont d'ailleurs été diffusées pendant un procès et qui ont valu à un certain nombre de personnes d'être condamnées, y compris à de la prison ferme, ce que nous avions révélé. Et vous ne pouvez plus les trouver sur Mediapart. Et donc, il y a eu un geste de solidarité qui a permis que ces enregistrements soient diffusés.
Qui prouve que l'écosystème, il est quand même...
Ce qui prouve qu'il y a des réseaux, en quelque sorte, solidaires et clandestins pour se battre. Mais tous ceux qui ont fait ça pourraient être poursuivis et condamnés et mettre la clé sous la porte. Nous, si nous avons succombé à la censure, c'est parce que c'était des millions et des millions d'euros qu'on aurait dû payer si nous avions maintenu ne serait-ce qu'une retranscription partielle des enregistrements qui sont pourtant les preuves judiciaires.
Combien de procès en cours en ce moment pour Mediapart ?
Mediapart, depuis son lancement en 2008, c'est une centaine de procès. On doit en avoir une cinquantaine, une soixantaine en cours.
En cours, une soixantaine en cours. Quand on lit l'ouvrage d'Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, sur le Rainbow Warrior, on voit bien qu'il y a déjà 30 ans, il y a déjà 40 ans, le système, c'était de s'appuyer sur des journaux concurrents. C'était de s'allier entre journalistes d'investigation, en l'occurrence à l'époque, c'était Le Monde et Le Canard enchaîné. De se mettre ensemble, ça rend plus fort.
Ah oui, ça c'est certain que c'est le journaliste, c'est un beau métier, c'est pas toujours une belle profession. Dans le milieu dit de l'investigation, il y a souvent des inimitiés, on passe son temps à se mesurer la taille des biscottos, c'est un univers parfois très masculin. C'est pour ça que on a voulu qu'il y ait montré que enfin voilà que il y ait du pluralisme et dans les genres également, mais au-delà de tout ça, si tout le monde s'est mis autour de la table pour c'est une première en France, raconter ce qu'est la crise du journalisme, une espèce de photographie du journalisme, comment on met des embûches sur le terrain de la liberté d'informer, c'est-à-dire du droit de savoir des citoyens, la seule façon de s'en sortir, c'est de mutualiser, c'est de montrer ce que nous avons tous en commun.
De la même manière que les grands quotidiens mondiaux se donnent la main pour mutualiser le travail face à des multinationales bien plus puissantes que vous.
Bien sûr, il y a un exemple, Édouard Perrin de Cache Investigation a révélé quand même une histoire phénoménale, LuxLeaks, c'est-à-dire comment le Luxembourg a organisé par des conventions fiscales avec les multinationales, l'appauvrissement de tous les pays. Celui qui a fait ça, c'est monsieur Jean-Claude Juncker, qui était Premier ministre du Luxembourg et qui est aujourd'hui président de la Commission européenne. Vous voyez le poids de l'opacité institutionnelle aujourd'hui. Qui risque quelque chose dans cette affaire ? Le journaliste qui est mis en examen, Édouard Perrin, au Luxembourg, et qui risque des peines et des amendes de prison très lourdes pour simplement avoir fait quoi ? Avoir fait son travail. Et nous
le
racontons...
délit de journalisme, comme dirait Denis Robert.
Denis Robert qui raconte le harcèlement judiciaire dont il a été victime, les centaines
À l'époque de Clearstream,
les centaines d'huissiers chez lui. Ça n'est plus acceptable que dans notre démocratie, nous ne soyons pas au niveau en ce qui concerne la liberté d'informer.
N'est pas un délit. Ça sort aujourd'hui chez Calman Lévy et c'est assez revigorant, vous l'aurez compris. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia De Villers. On n'est pas très loin de votre sujet du jour. Aujourd'hui, parole aux abstentionnistes. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas ou plus ? Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à retourner aux urnes ?
01 45... La presse quotidienne régionale en bonne et due forme, par exemple.
Par exemple. 01 45 24 7000 et le mot-clé sur Twitter, c'est Jour en France. On attend des témoignages.
J'espère bien. Je compte sur vous et ce sera juste après les infos.